Vous avez parfois la gêne d'oser poser vos questions, dire ce que vous pensez, parce que vous avez le sentiment que si vous dites ce que vous pensez, que vous posez certaines questions, on pensera de vous que vous êtes bête, ou que votre question est bête, ou que votre raisonnement ne tient pas la route. Ben, c'est le sujet du jour, donc on s'arrête dessus, parce que ça me paraît important de s'arrêter sur ce sujet. Je m'appelle Pascal Kionkion, praticien en relations d'aide, et je vous accompagne chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du jour dans lequel on va se poser la question de savoir s'il existe des questions bêtes, s'il existe des raisonnements bêtes. Dans le titre, j'ai parlé de questions, mais au-delà de la question, il y a un raisonnement, puisqu'une question est le résultat d'un raisonnement ou la signification d'un raisonnement en cours. Et je trouve encore trop de personnes qui sont mal à l'aise avec cette question, ce sujet des questions bêtes, et qui justement ont tendance à chercher à retenir ce qui leur vient. Je pense à certaines questions qui sont posées soit sur des forums, soit sur des réseaux sociaux, soit des questions qui m'ont été posées directement. Pourquoi est-ce que notre corps ne peut pas tout simplement éliminer la graisse de façon naturelle? Je précise juste que je suis également praticien en relations d'aide, ce qui peut expliquer ce genre de questions. Des questions comme les poissons boivent-ils de l'eau? Ou bien je me suis jamais senti heureux ou heureuse, est-ce que c'est normal? Ou est-ce que faire du mal à quelqu'un en rêve équivaut à lui faire effectivement du mal? Voyez? Alors, j'entends bien que certaines questions qui sont posées sont en même temps accompagnées d'une certaine gêne, parce que ces personnes ont déjà le sentiment qu'elles sont sans doute en train de piétiner, de fouler un chemin considéré comme étant bête par l'entourage. Alors d'abord, je voudrais affirmer qu'une question est effectivement le révélateur d'un phénomène de pensée. Je l'ai déjà évoqué dans l'introduction et vous l'aviez compris. Ça peut vouloir dire justement que ça pourrait tout à fait prêter à moquerie, puisque si la personne arrive à poser cette question, c'est qu'elle pense au rat des pâquerettes. Il m'est arrivé de le dire de manière humoristique que j'ai l'impression parfois que certains groupes de jeunes partagent le même neurone, quoi. C'est une sorte de collaboration autour d'un seul neurone, tellement le niveau paraît bas. Vous comprenez que c'est une bouderie. Alors, dire qu'il y a des questions bêtes de manière légère, en rigolant comme ça entre nous, pourquoi pas? Mais sur le fond, réellement, existe-t-il des questions bêtes? Je pense à une question qui a été posée en ligne. Comment révéler à son ami qu'on le trompe? On pourrait dire que c'est une question bête, parce qu'en fait, il paraît évident que le meilleur moyen de le lui révéler, c'est de lui dire ou de lui écrire. Donc il n'y a pas beaucoup d'options, ou bien peut-être de veiller à ce qu'il nous prenne par surprise, à supposer que la relation se poursuive, la relation de tromperie se poursuive. Quelles sont les autres voies? Il n'y en a pas beaucoup quand même. On peut demander à quelqu'un de le lui dire. Vous voyez, mais a-t-on besoin d'aller poser la question à quelqu'un? Vous percevez que cette démarche a un fondement. J'aimerais que l'on entende qu'à chaque fois on a l'intention de poser une question, que l'on a l'impression qui pourrait être une question bête, ou que quelqu'un autour de nous pose une question qui nous paraît bête, on parte du principe que la personne commence à communiquer avec elle-même. En réalité, bien des questions que nous posons sont des questions rhétoriques, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire des questions que l'on se pose à soi-même, même si elles sont formulées en présence de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on attend nécessairement de quelqu'un une question pour commencer, mais on est en train de mettre une question sur la table, de la déposer là, parce qu'on a besoin de cheminer d'abord avec soi-même et que l'on invite éventuellement quelqu'un à cheminer avec nous. Il n'est pas donc nécessaire de supposer qu'une question appelle une réponse d'abord, mais une question invite à un cheminement personnel. Et vous comprenez que si on l'entend ainsi, on va l'accueillir bien autrement. Même s'il s'agit d'une question purement classique, quotidienne, de vie quotidienne, comme celle qui pourrait consister à s'interroger sur la raison pour laquelle, pendant la douche, le rideau de douche a tendance à se rapprocher de nous pour se coller à notre corps. J'informe qu'une étude scientifique a été faite par des étudiants d'université pour comprendre ce phénomène. Et ce phénomène est tout à fait prouvable scientifiquement, explicable, démontrable, etc. Donc, parfois la question peut paraître bête a priori et ne pas l'être tant que ça. C'est une des pistes qui peut permettre déjà de comprendre que oui, j'ai supposé ou présupposé que la question était bête et c'était à tort. Ça met tout à fait en évidence notre facilité à glisser vers ce qu'on appelle un jugement. Et je préciserai même un jugement abusif, parce que tant qu'on n'a pas exploré la question qui a été posée, comment présumer qu'il s'agit effectivement d'une question bête. Finalement, le raisonnement qui consiste à préjuger que la question est bête peut être considéré comme étant bête lui-même, vous comprenez, puisqu'on n'est pas encore en mesure et n'ayant pas pris le temps de se poser, de s'arrêter sur la question, de mesurer la portée, la raison d'être et les éléments qu'on verra tout à l'heure, on peut sans se tromper déterminer qu'il s'agit d'un jugement abusif ou d'un raisonnement abusif que de considérer une question comme étant bête parce qu'elle a été posée alors qu'on n'a pas encore commencé à s'arrêter sur la réponse. J'aimerais que quand vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, à vous, que vous ne vous préjugiez pas, que vous ne jugiez pas en amont de vous dire ce que je vais dire, ce que je pense est bête, ça ne tient pas la route. Et la plupart du temps, malheureusement, ça ne s'arrête pas seulement à me dire que ce que je pense ou ma question est bête, c'est de se dire que je suis bête. Vous comprenez qu'il y a un raccourci qui est considérablement néfaste pour soi-même. Parce qu'à la rigueur, ce n'est pas parce que la question pourrait être bête ou paraître bête que la personne qui la pose est bête. Mais nous avons tendance à faire ce raccourci. Or, j'ai déjà dit dans un podcast qu'à partir du moment où l'on se fonde sur un acte ou une parole pour dire que comme cette parole ou cet acte est bête, je suis bête, ou que se fondant sur un acte ou une parole, on va en tirer une conclusion en « je suis », on se trompe. On se trompe systématiquement. Ce n'est pas parce que j'ai fait une chose magnifique pour mon enfant que je suis un bon parent. Ce n'est pas parce que j'ai raté un plat, 15 plats, 30 plats, que je suis un mauvais cuisinier. Ce n'est pas parce que j'ai une relation amicale qui est arrivée à son terme que je suis un mauvais ami. Quand je dis à son terme, ça veut dire qu'elle s'est rompue. Ce n'est pas parce que je n'arrive pas à vivre un couple épanoui que je suis un mauvais amant ou un mauvais conjoint. C'est une erreur de préjugement. Deuxièmement, c'est une erreur raccourcie qui est proche du préjugement, hein, parce que en général, un préjugé, c'est un raccourci. On part d'un postulat, on arrive à une conclusion sans expérience, sans démonstration, sans étude, sans analyse, sans raisonnement. Il a fait ça, il est donc comme ça. Il n'a pas fait ça, il est donc comme ça. C'est une erreur systématique. De la même manière que quand j'entends une question qui me paraît bête, de l'étiqueter comme une question bête. Enlevons nos compartiments. Je sais que le fait d'envisager d'enlever les compartiments participe à nous déstabiliser parce que nous aimons les étiquettes, nous aimons les compartiments, nous aimons être certains de notre manière de lire les choses. Et nous sommes dans l'inquiétude quand nous ne savons pas comment compartimenter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va en faire? Où va-t-on le classer? Ça génère une sorte d'inquiétude et parfois même d'anxiété, voire d'angoisse chez certaines personnes, de ne pas savoir comment gérer quelque chose qui leur paraît nouveau et surtout non compartimentable, non étiquetable. Alors je voudrais vous inviter à faire preuve de quiétude, de repos, de vous apaiser quand vous êtes face à une situation qui n'est pas étiquetable, que vous ne savez pas comment gérer, que vous ne savez pas où la compartimenter, dans quel tiroir la placer, en vous disant « génial, j'ai l'opportunité d'apprendre quelque chose ». Quand quelqu'un me pose une question qui me paraît bête, hop, je ne vais pas la compartimenter, l'étiqueter, je vais apprendre quelque chose sur moi d'abord. Pourquoi je trouve cette question bête? Pourquoi je trouve ce compartiment bête? Qu'est-ce que je veux condamner qui est chez moi? Qu'est-ce que je veux signaler qui est chez moi? Qu'est-ce qui se réveille chez moi, sur moi, à mon propre sujet, qui fait que je considère que la question, l'attitude, le raisonnement ne tient pas la route, qu'il est bête? Pourquoi? Est-ce que c'est une manière de me mettre en avant, de me valoriser? Est-ce que c'est une manière de donner l'impression que, à moi-même d'abord, hein, que je raisonne, que je suis intelligent, que je vaux quelque chose. Vous vous souvenez que si j'évoque « je vaux quelque chose », je suis en relation avec « comme j'ai fait ceci, je suis ». « Comme je pense comme ça, je suis ». Ce qui est une erreur systématique. Même le raisonnement « parce que je pense, je suis » ne tient pas la route. Je m'arrête là, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ça peut être, tiens, un raisonnement bête ou a priori bête qui peut permettre de poser les choses, de les approfondir et de voir en quoi cette approche qui est communément admise a des failles considérables, contient des failles considérables. le fait de ne pas compartimenter peut peut-être effectivement angoisser, mais le fait de ne pas compartimenter favorise la libération de soi. Je suis dans une démarche de libération personnelle quand je choisis de ne pas enfermer ce qui m'est dit comme étant bête, comme étant inutile, comme étant insensé, comme ne tenant pas la route, comme étant un raisonnement idiot, etc. Je me libère moi-même avant de libérer l'autre, en fait. Si je me libère moi-même de cette envie de compartimenter ou d'étiqueter, je vais participer à l'éventuelle libération de l'autre, même si effectivement c'est pas moi qui suis le tenant de la libération ou de l'emprisonnement de l'autre. Parce que quand j'emprisonne l'autre dans un étiquetage, finalement je me fais croire que j'emprisonne l'autre, mais c'est moi que j'emprisonne. Je n'ai pas le pouvoir d'emprisonner quelqu'un qui pose une question qui me paraît bête. D'accord ? C'est moi qui m'emprisonne moi-même. Quand je prends conscience de mon propre emprisonnement, enfermement, eh bien, j'aurais tendance à me dire qu'il est dommage de fonctionner ainsi avec moi-même et finalement de mettre un frein clair au jugement abusif, aux préjugés abusifs, pour accepter ce qui se passe devant moi, le déroulement de ce qui s'ouvre à moi, sans être enclin à m'enfermer, à accueillir ce qui est dit, à accueillir les questions posées, les raisonnements, les manières de fonctionner, sans préjuger, sans étiqueter, sans enfermer, mais en accueillant, en ouvrant, en favorisant, parfois même en encourageant le raisonnement. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, en entendant ta question, j'ai l'impression que tu la trouves bête, toi. Pourquoi tu estimes que cette question est bête ? Parfois même, certaines personnes explicites, j'ai une question à vous poser, elle vous paraîtra bête. Pourquoi préjugez-vous qu'elle paraîtra bête ? Ça veut dire que vous la trouvez bête. Pourquoi la trouvez-vous bête, cette question ? Pourquoi, d'après vous, ce raisonnement pourrait ne pas tenir la route ? Parce que, en écoutant la personne qui s'exprime, on percevra que son raisonnement n'est pas si bête que ça, puisqu'elle sera elle-même dans un cheminement de raisonnement qui l'amènera à démonter, peut-être parfois, le bien fondé de sa question, ou parfois à étayer le fondement de sa question. Elle se rend compte que la question qu'elle a posée est une question de surface qui ne révèle pas son raisonnement de fond, par exemple, et qu'elle va se connecter à elle-même pour apprendre à se découvrir elle-même. Donc je ne peux pas fonder mon avis sur la formulation de la question, puisque parfois la formulation de la question ne révèle pas le fond. Quand un enfant demande à son parent, papa ou maman, comment on fait les bébés ? Vous percevez que la question n'est pas une question de surface. Il ne veut pas savoir si papa et maman couchent ensemble, que le sexe de l'un va dans le... Non, c'est pas ce qui l'intéresse en fait. La question c'est d'où je viens ? Comment est-ce possible de générer du vivant un être comme moi, quoi ? Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai vu aucun magasin qui vend des bébés. Je n'ai vu... Vous comprenez qu'on est sur une question de fond finalement. Alors la plupart des parents vont dire, ben, les bébés naissent, les garçons naissent dans les choux, les filles naissent dans... On essaie de... Papa met une graine dans le ventre de maman, etc. Parce qu'on a l'impression que c'est une question technique. Mais on est sur une question existentielle. D'où je viens ? Comment ça se fait que je sois là, vivant, quoi ? J'ai bien compris que vous m'avez dit que j'étais dans le ventre de maman, mais comment puis-je être dans le ventre de maman en étant si grand ? Ah oui, c'est vrai. Vous m'avez montré des photos dans lesquelles j'étais petit. Mais même petit comme ça, j'étais dans le ventre de maman. Mais comment on m'a mis dans le ventre de maman ? Et pourquoi ? On est sur une question qui va tarauder l'humain jusqu'à la fin des temps. C'est l'origine de la vie. Alors je ne demande pas de commencer à expliquer à l'enfant l'origine de la vie, mais d'entendre que la question qui est posée n'est une question que de surface et qu'il se pose une question existentielle profonde. Oui, nos enfants te posent des questions existentielles profondes. Autant faire en sorte, en tant que parent, de se dire que derrière les questions de surface se trouvent des questions de fond importantes. Comment les oiseaux font-ils pour voler ? C'est une question de fond profonde. Parce qu'en fait, quand on lance quelque chose en l'air, ça tombe. Si moi je veux sauter, je retombe. On est carrément sur une question relative à la relativité. Comment se fait-il que des oiseaux ne tombent pas ? Comme tout ce que je vois qui est autour de moi tombe à partir du moment où ça décolle du sol. Cette semaine, j'ai mes nièces à la maison pour les vacances. Elles m'ont posé une question que j'ai trouvée intéressante quand elles m'ont demandé quel était mon métier. Tonton, rappelle-nous quel est ton métier. Alors je leur ai dit, j'apprends aux gens à être heureux. Mais pourquoi les adultes ont-ils besoin qu'on leur apprenne à être heureux, nous les enfants ? On sait être heureux. Vous percevez que cette question, qui est loin d'être une question bête, même si en surface ça pourrait, Je leur ai dit qu'en fait, les adultes savent être heureux, mais ils ont oublié comment ils faisaient pour l'être, en prenant la distance avec l'enfance. Il n'existe pas de question bête. Aussi bête soit la question, à nos yeux, aussi intéressante peut-elle être dans le fond. Et j'aimerais que systématiquement, vous vous amusiez comme un exercice, comme un jeu, à percevoir votre tendance à qualifier une question, un raisonnement ou une attitude bête, et que systématiquement, dès que vous avez la tendance naturelle à l'étiqueter ou à la compartimenter dans « ça, c'est bête », que vous interrogiez peut-être la personne, alors si c'est vous que vous vous interrogiez vous-même pour savoir pourquoi vous êtes source de ce raisonnement, de ce comportement, de cette manière de voir les choses ou de cette interrogation, et quand c'est quelqu'un d'autre, que vous puissiez vous approcher de lui ou d'elle pour l'interroger. Je vois que tu as posé cette question, j'ai vu que tu as adopté tel comportement, qu'est-ce qui t'a conduit à ça ? Vous savez que nous ne pouvons pas être experts en tout. Ça signifie que si quelqu'un adopte un comportement ou formule quelque chose qui est dans mon domaine d'expertise, j'aurais tendance naturelle à considérer que son attitude ou son raisonnement, si ce n'est pas son domaine d'expertise à lui, ne tient pas la route, que son raisonnement est bête, que son raisonnement est trop léger, qu'il n'est pas poussé suffisamment à fond, qu'il est dépourvu d'une certaine connaissance. Mais c'est parce que c'est mon domaine d'expertise. Si je me retrouve à raisonner ou à poser des questions dans un domaine qui n'est pas mon domaine d'expertise, quelqu'un d'autre aura cette même tendance à avoir l'impression que mon raisonnement, mon analyse, mon comportement, mon savoir-faire ne tient pas la route. On ne peut pas exceller dans tout. Cela veut dire que je me prépare à ce que quelqu'un, même qui est dans mon domaine d'expertise, ait une manière de raisonner, de fonctionner ou de penser qui soit différente de celle qui me paraîtrait pertinente, sensée, parce que son approche d'expert couvre des domaines ou des nuances qui ne sont pas celles que je maîtrise. Vous comprenez que on a choisi chacun un préjugement qui nous fait défaut, qui nous abîme, qui nous altère. Le fait de sortir de cette manière de raisonner, c'est une question bête, c'est une attitude qui n'est pas fondée, etc., pas pertinente, nous libère et nous permet d'accueillir soi-même et les autres correctement. Le biais de considérer qu'il y a des questions bêtes, c'est que ça va nous pousser à nous retenir nous-mêmes dans la relation sociale. On n'osera pas dire certaines choses, on n'osera pas penser certaines choses, on n'osera pas interroger certaines choses, parce qu'il est fort probable que quelqu'un considère que ce que nous dirons, notre attitude ou notre action, est bête. Faux, dommage, dommage de s'auto-censurer parce que ce qui pourrait être considéré comme bête va participer à nous servir de plafond de verre. Je trouve vraiment dommage également de participer à limiter l'expression de l'autre en donnant l'impression que si tu me dis quelque chose que je considérais comme étant bête, je t'enverrai dans les ronces. Vous comprenez que c'est une démarche qui n'est pas du tout bienveillante. Je préférais que l'on accueille l'autre dans sa manière de faire, de fonctionner, et qu'il n'ait pas besoin de retenir quoi que ce soit de lui, qu'il puisse se livrer librement dans ses questions et ses raisonnements en étant convaincu qu'il sera accueilli parce qu'il est conscient d'être dans un cheminement personnel, comme nous pouvons être conscients nous-mêmes d'être dans un cheminement personnel dans lequel on s'interroge, on n'est pas en maîtrise de toutes les réponses, ce qui serait dommageable, parce qu'autrement on serait dans un fondamentalisme psycho-émotionnel, analytique, etc. Non, non, on est dans une ouverture. Le fait d'être dans une ouverture est un signe d'intelligence. Par conséquent, accueillir la question comme étant un signe d'ouverture, même si elle ne nous paraît pas brillante, est un signe d'intelligence. Accueillir une question qui paraît bête, sans la juger comme telle, est un signe d'intelligence parce qu'on va comprendre que la question est un matériau qui peut servir à cheminer avec soi-même, à cheminer avec les autres sur le plan social, dans un raisonnement, dans une réflexion même collective, pour amener à grandir ensemble, grandir dans une quête de soi, quête de sens, dans une ouverture vers plus de clairvoyance, à comprendre que l'on grandit quand on est les uns en collaboration avec les autres, d'où l'intérêt de poser sa question devant d'autres, parce que même si je me la pose à moi en premier, eh bien je la pose aussi à d'autres, et que les autres sont invités à collaborer ou à coopérer dans une réflexion, une analyse, une projection, une lecture différente que celle que j'aurais pu avoir. Imaginez que vous gardiez vos questions pour vous en supposant qu'elles sont bêtes. C'est un moyen de vous empêcher de grandir, de vous empêcher de progresser et d'avancer. Ne vous retenez pas et laissez les gens qui vous jugent se juger, finalement peut-être se planter elles-mêmes ou se priver d'une occasion de grandir, de progresser, pour poser vos questions en refusant que quiconque considère que ce que vous dites, sur quoi vous vous interrogez, est considéré comme étant bête. Et même s'il le fait, continuez. En quoi cette question te paraît bête? Posez-lui la question. Qu'est-ce qui te fait rire? Est-ce que tu vois dans ma question quelque chose qui sous-tend cette question, un raisonnement? Et si raisonnement il y a, quel est-il? Vous percevez dans ce que je vous dis une invitation à aller au-delà de la surface, ce qui est un moyen d'inviter les autres à comprendre qu'au-delà de la question qui pourrait paraître bête en surface, se trouve un raisonnement, un cheminement, une opportunité d'ouvrir des portes et d'ouvrir ces portes tellement grandes que l'on peut se retrouver sur des champs de réflexion, de croissance, d'amélioration de soi et de sa manière de raisonner, avant d'envisager de trouver les réponses. Parce qu'une question n'appelle pas une réponse, mais elle apporte d'abord une opportunité de raisonnement, de réflexion. Je vous laisse utiliser les opportunités que vous aurez en discussion pour vous exercer à ce travail, cet exercice que je vous ai proposé, d'utiliser les questions qui vous sont posées et même celles que vous poserez pour aller vers de la relation verticale, vers de la relation de réflexion, de raisonnement, et vous rendre compte que l'intelligence, quand elle est partagée, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante que quand elle est isolée, qu'on le réfléchit tout seul dans son bureau, dans sa chambre. C'est vraiment mieux le lien social, parce que notamment communiquer, sa question, permet de se rapprocher les uns des autres. Je rappelle que l'étymologie de communiquer, c'est devenir un, se rapprocher de l'unité. Un moyen de le faire, c'est de réfléchir et de raisonner ensemble. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques, bien entendu, comme vous êtes habitué à le faire. Vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux. Merci encore à ceux qui mettent des étoiles, qui me font briller les yeux par moments. Et puis, continuez à travailler à votre bonheur en posant des questions en pleine libération de soi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.